Maëlle Toledano qui vient de nous rejoindre pour cette nouvelle émission et qui va participer donc avec nous à la chronique de Marika. Bonsoir Maëlle, merci d'être avec nous
Bonsoir.
pour cette chronique. Voilà, en plus c'est une chronique très intéressante. Ça va être lever des fonds. Comment fait-on quand on est un particulier ou pas d'ailleurs pour lever des fonds? À qui s'adresse-t-on? Peut-on le faire tout seul? Comment peut-on gérer ça ou pas gérer ça, bien gérer ou mal le gérer? Marie-Caroline, c'est à vous. Expliquez-nous et dites-nous comment on fait.
Ok, bonsoir Bernard. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds? C'est une opération en fait qui consiste à faire rentrer des investisseurs dans le capital de sa société. Et donc en fait, les investisseurs, ils apportent de l'argent et en contrepartie, ils prennent une prise de participation dans le capital. Donc il y a clairement une idée de dilution des associés originaires suite à l'entrée des nouveaux. Et donc, en fait, dans l'entrepreneur, enfin, quand on est entrepreneur, en général, les levées de fonds, elles sont vraiment au début du process. Donc, on va voir quand est-ce qu'on peut lever des fonds, etc. Mais donc, en fait, c'est vraiment du non-coté. Et donc, il y a beaucoup de risques puisque l'entreprise, elle est possiblement, elle a encore rien vendu. Enfin, ça dépend des niveaux. Mais donc, il y a possibilité vraiment de perdre 100% de la mise de départ. Mais. Qui dit aussi possibles belles opportunités. Donc, en 7 ou 10 ans, donc c'est vraiment à long terme, il y a possibilité d'en sortir avec une belle plus-value. Donc, ça dépend comment la boîte va se développer. Et pour en sortir, la plupart du temps, il va falloir trouver d'autres investisseurs qui seraient possiblement prêts à investir, puisqu'encore une fois, c'est pas coté, donc ça va pas être si facile que ça. Donc, la levée de fonds, c'est une des possibilités de financement. Bien sûr, il y en a plein d'autres. C'est possible aussi d'avoir des fonds publics, c'est possible d'avoir des prêts des banques, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une levée de fonds, ce n'est pas obligataire. Ce n'est pas une obligation, quoi. Et ce n'est surtout pas une obligation si on n'a pas envie d'avoir de nouveaux partenaires et si on ne veut pas nécessairement d'avoir la pression avec cet argent en plus. Parce que qui dit. Quelqu'un qui nous donne de l'argent, bah forcément, il y a la pression de faire bien avec son argent et de le faire grandir. Donc, quand est-ce qu'on peut lever des fonds? Il y a plusieurs possibilités. C'est soit quand on a une solution à un problème, donc ça, c'est vraiment au tout début, ou alors quand on a trouvé la demande à son produit. Possible aussi quand on a besoin de plus de support. Ou quand on sait qu'on va venir à court d'argent d'ici 12 à 24 mois. Et pourquoi 12 à 24 mois? C'est qu'en fait, un process de levée de fonds, c'est long. En moyenne, ça prend 6 mois. Donc, il faut vraiment mieux prévoir à 2 ans à l'avance parce que bah, sinon, si c'est qu'un an, au bout de 6 mois, il faudra se reposer la question. Et encore une fois, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication. Donc, il y a deux enfin, types de levée de fonds. Donc, il y a le capital d'amorçage. Donc ça, c'est vraiment pour démarrer une activité, démarrer un service ou lancer un produit. Et puis, il y a le capital développement. Donc ça, c'est quand on a trouvé, par exemple, de la demande à son produit, etc. C'est pour vraiment faire augmenter la croissance de l'entreprise et du coup, bah, poursuivre le développement. Et donc, ça peut permettre de recruter plus de personnes, ça peut permettre de plus faire de marketing, ce genre de choses. Donc, ce qui est difficile dans la levée de fonds, c'est qu'encore une fois, on part d'une entreprise qui est vraiment, enfin, souvent très jeune, et le but, ça va être de se mettre d'accord sur la valorisation de la société. Et donc, comment valoriser une société qui n'a pas nécessairement de compétiteurs, ça dépend quel produit on a, à quel point notre solution est innovative. Donc voilà, donc ça, de se mettre d'accord, ça va être un peu compliqué. Et puis après, il y a tous les aspects juridiques de l'opération. Par exemple, les droits auxquels vont bénéficier donc les nouveaux entrants en fonction de leur apport, etc. Ça aussi, c'est du coup complexe. Et donc, pour lever des fonds, on a besoin d'investisseurs. Et en général, il y a deux sortes d'investisseurs. Il y a ce qu'on appelle les BA et les VC. Donc, BA, c'est Business Angel. Et VC, c'est venture capitaliste. Et donc, eux, ils apportent plus que de l'argent. Ils apportent évidemment leur argent, mais aussi leur expérience et leur réseau. Et donc, la différence entre BA et venture capitaliste, donc BA, c'est vraiment quelqu'un, c'est une personne souvent, du coup, qui est assez fortuné et qui va investir son argent personnel. Et donc, du coup, il y a un lien qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus affectif entre le projet ou l'équipe. Et donc, c'est beaucoup moins de process et c'est vraiment plus, voilà, il y a un intérêt, j'ai envie d'aider cette personne parce que le projet me plaît. Alors que les ventures capitalistes, du coup, eux, c'est des investisseurs qui sont professionnels. Et le procès, il est énorme. Il y a 5 à 8 tours d'entretien, c'est très normé. Il va y avoir le premier entretien, ça va être un analyste, etc. Et puis au fur et à mesure de la hiérarchie, on va arriver avec le partenaire. Mais par contre, c'est beaucoup plus en termes d'argent, il y aura des plus gros budgets, puisqu'encore une fois, ce sont des professionnels. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ce process qui est du coup long et complexe et possiblement aussi stressant, c'est quand on rate un tour, donc en fait on est exclu du process, on va pas pouvoir retenter avec le même VC du coup pendant une période de 18 à 24 mois. Donc encore une fois, il faut être sûr d'être au bon moment, toucher la bonne cible, etc. Et donc en fait, par exemple pour mon podcast Monetchi Lab, j'ai interviewé le boss d'une plateforme qui s'appelle Eldorado en France. Et en fait, eux, ils se sont rendus compte que la levée de fonds, c'était vraiment un peu comme un marathon. Et c'était quand on parle de quelqu'un qui est CEO, donc le boss en fait, lui, il dit que c'est chief Everything officer. Et donc, ça veut dire qu'en fait, bah, le boss doit, ou la boss doit tout faire, dont la levée de fonds. Mais la levée de fonds, c'est limite un job à 100%. Donc, en fait, eux, leur plateforme, elles mettent en relation des boîtes ou des individus qui veulent investir avec les entreprises qui veulent trouver des financements. Puisqu'encore une fois, en tant que petite entreprise, bah, c'est dur de savoir qui est intéressé et d'ouvrir son capital et de trouver les bonnes personnes, et vice-versa. Donc ce genre de plateforme, Eldorado par exemple, ça existe en France et ça marche plutôt pas mal.
Ok, alors là, le sujet, il est mis en place, vous l'avez dépeint. Bon, moi, je vais vous donner une opinion un peu personnelle, un peu brutale là-dessus. Pour moi, c'est une vaste escroquerie. Voilà, c'est une vaste escroquerie si on va dans les extrêmes. Alors, on a des levées de fonds, c'est-à-dire la levée de fonds, c'est deux choses, hein. C'est une entreprise qui va chercher des capitaux et des gens qui y répondent, ou alors, et le plus souvent des cas, ce sont des fonds qui disposent de capitaux, qui s'adressent à une entreprise, qui disent à une entreprise, regardez, on pourrait faire ça, on pourrait vous amener ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, et qui mettent des capitaux dans l'entreprise. Quand on est sur un marché mature, avec de la visibilité, ça se passe très bien. Tout le monde sait compter, et les gens comptent bien, on a des machines pour nous aider à bien compter. Donc, quand on fait du LBO, par exemple, quand on aide un encadrement, quand on aide des gens à racheter une entreprise qui fonctionne, on regarde comment elle fonctionne, on regarde quelles économies on peut faire, on a une analyse du marché à 3 ans, à 5 ans. C'est des opérations qu'on essaie de boucler sur des durées entre 3 et 8 ans. Et globalement, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand le management fait appel à de la levée de fonds, c'est parce que les banques n'ont pas répondu présent. Donc, si les banques avaient répondu présentes, ils se seraient servis uniquement d'appui bancaire à des taux beaucoup, beaucoup plus bas, au moins 2 fois inférieurs, hein. On est à peu près sur même 3 fois inférieurs, puisqu'on est à peu près sur 4 pour les banques et sur 12 pour les levées de fonds, donc 3 fois inférieurs. Là, ça se passe bien. Quand c'est des sociétés, alors des fois, bien sûr, ça rate et il y a des problèmes, mais ça se passe bien. Quand c'est des sociétés matures, donc c'est-à-dire quand il y a une société mature qui veut racheter une autre société mature ou qui veut développer une technologie ou développer un appareil ou développer un savoir-faire, là aussi, il y a énormément de visibilité. Ça se passe bien. Avec, bien entendu, comme quand on achète une action, des fois on se trompe, on perd des sous, des fois on se trompe pas, on gagne des sous, et des fois c'est au-delà de nos espérances et on gagne beaucoup plus de sous que prévu. Parce qu'on a de la visibilité et parce qu'on est dans un métier structuré. Quand on n'a pas de visibilité, pour deux raisons, soit parce qu'il y a un engouement de marché, soit parce que c'est un nouveau marché et quelqu'un arrive et dit voilà, moi, je pense qu'on peut importer de l'air de la Lune ou des rayons de soleil de là et créer ça où je pense qu'on peut faire communiquer des plantes ensemble et donc faire pousser du maïs avec moitié moins d'eau, des choses comme ça. Donc là, on a rien, il faut aller explorer. Et donc, par définition, on ne sait pas valoriser. On ne sait pas, c'est impossible à valoriser. La seule chose qu'on sait, c'est qu'en valorisant, on va se tromper. Et tout le monde va se tromper, sans aucune exception, même si quelquefois, quelques-uns vont avoir raison sur des dossiers. À partir de ce moment-là, on va mettre de l'argent, enfin les fonds vont mettre de l'argent en intelligence artificielle, en truc. Dans les années 2000, c'était sur Internet, mais partout où il a été mis de l'argent sur Internet, 80%, 90% des dossiers, on a perdu de l'argent. Aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, rêvez pas, 80% des dossiers dans lesquels vous mettez de l'argent, vous allez en perdre. En revanche, peut-être que un des dossiers dans lequel vous en mettez, vous allez en gagner tellement que ce sera votre meilleure affaire de toute l'histoire de toute votre histoire d'investisseur. Mais là, personne ne le sait. Pourquoi personne ne le sait? Parce que personne n'est maître et personne ne connaît le futur. Donc, ils font travailler des batteries. Alors là, pour ça, ils sont champions du monde. Ils vont vous faire travailler des batteries dans tous les sens, des algorithmes. Ils vont avoir une batterie d'ingénieurs qui ont fait des écoles et de mathématiciens, les écoles les plus prestigieuses, des gens bardés de diplômes. Ça ne les empêchera pas d'amener à la faillite un jour ou l'autre ce qu'ils ont fait, parce que même les gens intelligents peuvent faire faillite. Regardez un petit peu dans l'histoire des hedge funds et des choses comme ça, ils nous l'ont prouvé. Et donc, c'est une vraie loterie. Et la seule manière de sortir de cette loterie quand vous êtes investisseur, ou vous y allez au nez et vous avez une chance sur deux ou une chance sur 10 pour que ça marche, ou vous arrosez et vous dites j'ai une classe d'actifs, je m'en fous, je sais que je vais perdre 80 fois, mais les 20 fois où je vais gagner, ça va faire bingo. Et donc ça, c'est des marchés où j'ai envie de vous dire, n'y allez pas. Tout simplement, n'y allez pas. Allez-y dans deux cas. Soit vous voulez faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, ou parce que c'est un aimant, un amante ou un amant. Soit parce que c'est votre enfant, soit parce que c'est quelqu'un de la famille, soit parce que c'est un copain que vous connaissez depuis 30 ans, soit parce que vous avez 20 000 à mettre et vous êtes dans un état financier tellement bien que 20 000, c'est pas un souci pour vous. Dans ce cas-là, allez-y avec le cœur, mais c'est pas du business. C'est une aventure. Et de l'autre côté, quand vous êtes persuadé et que vous avez un bon projet et que vous allez lever des fonds, bah, allez-y aussi avec la rage de l'entrepreneur. Parce que personne n'a le droit de vous dire que vous avez tort avant que vous-même reconnaissiez que vous vous êtes trompé. Donc, faites votre job d'entrepreneur et allez avec les dents s'il le faut pour chercher les sous dont vous avez besoin. De l'autre côté, faites votre job d'aimant si vous voulez aider quelqu'un ou asperger en vous disant que la classe d'actifs vous sauvera et que ça ne sert à rien d'être intelligent. Mettez un petit billet partout. Mais autrement, mon conseil, ne touchez pas à des choses matures. Et la deuxième chose où c'est quand il y a un engouement pour un secteur, alors là, tous les gens qui auraient dû mettre des barrières, qui auraient dû mettre des contrôles, qui auraient dû mettre des vérifications, se laissent aveugler. Voilà, ils se laissent complètement aveugler. C'est comme quand vous avez quelqu'un à la télévision ou qui est super bon, ou qui parle super bien, ou qui est extrêmement charismatique, vous vous laissez aveugler par sa personnalité et vous ne faites pas attention à ce qu'il dit et vous le croyez un petit peu argent comptant. C'est la même chose, et je vais terminer là-dessus. Et là, le plus bel exemple, c'est SBX, là, avec sa société. Les plus grands ont investi de l'argent dans cette société. Là, j'ai le nom qui m'échappe, mais vous allez m'aider. Et SBX, il a fait une faillite à 32 milliards, et tout l'argent est perdu. Et vous allez voir que les Goldman Sachs, les machins, les bidules, les chouettes, tous les plus grands fonds ont mis un petit billet de manière directe ou indirect. Donc c'est un terrain miné et dangereux. Allez, je vous redonne la parole, Marika, pour un petit peu rebondir sur tout ce que j'ai dit. J'ai été un peu long, mais le sujet, il est dense aussi.
Mais non, je suis complètement d'accord que c'est un terrain miné et comme on l'a dit surtout au début, c'est vraiment un peu comme on lance une pièce et puis il y a un peu une chance sur deux ou même une chance sur 10. Donc effectivement, enfin, je suis complètement d'accord. C'est si on veut investir là-dedans, c'est qu'on a une situation financière qui est hyper stable et que le ticket qu'on va mettre, c'est vraiment petit par rapport à son patrimoine entier. Ou alors, c'est la règle des 3F. Donc, c'est 3F en anglais, mais je vais traduire. Donc, c'est Friends, Family and Fools. Donc, c'est en gros un investissement sur le cœur quand c'est sa famille ou ses amis. Et aussi des fools, donc ça, c'est les personnes qui sont soit un peu, qui ont des rêves ou qui sont un peu déconnectés, entre guillemets, voilà, qui veulent investir, voilà. Mais en théorie, voilà, c'est vraiment un investissement plus sur le cœur, surtout au début de vraiment, dans, voilà, quelquefois, il y a des levées de fonds qui sont faites, encore une fois, sans vente. Donc c'est vraiment, vraiment au tout début du process.
Voilà. Allez, Maëlle, on va vous laisser conclure là-dessus, comme vous êtes venu nous rejoindre beaucoup plus tôt que d'habitude. Allez, c'est clairement pas votre sujet, c'est clairement pas votre métier, mais bon, vous êtes comme tout un chacun investisseur, et puis vous avez probablement déjà des copains qui ont déjà dû monter des sociétés, de la famille, des choses comme ça. Comment vous voyez cet univers un peu d'un point de vue du professionnel que vous êtes, et comment vous voyez cet univers aussi du point de vue de l'investisseur ou de l'ami d'un entrepreneur que vous êtes probablement aussi.
Alors, je dirais que ça nous concerne directement également, puisque nous, on en a quand même pas mal dans les contrats aussi, des participations dans des sociétés de nos côtés. Donc, des business angels, par exemple, des clients qui ont investi dans. Alors, généralement, nos clients, ils investissent dans beaucoup de sociétés. Et il y en a peut-être sur une quinzaine, il y en a peut-être une ou deux qui performent. Et donc, la valorisation devient assez importante. Et donc, c'est ce type de participation dans des sociétés que l'on intègre dans nos contrats. Donc, Wellins, on est actionnaire d'un grand nombre de sociétés via nos clients. Plutôt l'inverse, nos clients sont actionnaires d'un grand nombre de sociétés via Willins. Donc c'est un monde qu'on connaît bien. Moi je suis un peu d'accord avec vous, hein. Nous on parle de clients fortunés qui peuvent se permettre de prendre un certain risque. Là, si dans le thème évoqué, on parle plutôt de mettre 5 000 ou 10 000 euros pour aider un copain qui monte une société. Là pour le coup, il faut le faire, c'est pour des raisons affectives, hein. Je vous rejoins totalement, Bernard. C'est vraiment pour aider quelqu'un qu'on a envie de soutenir. Si c'est pour mettre beaucoup plus dans une société ou passer par un tour de table avec des actionnaires institutionnels, où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est quelque chose de beaucoup plus normé, beaucoup plus régulé, c'est pas du tout la même approche. Donc pour l'investisseur lambda que je suis, je me mets dans le panier, pour l'investisseur lambda, faut le faire pour des raisons affectives, peut-être dans un premier temps, sans jeter son argent par les fenêtres, hein, faut quand même croire au projet de la personne qu'on va sponsoriser. Mais ça, c'est vrai qu'il faut moins regarder l'aspect ultra pro et plus regarder l'aspect amical.
Ok. Alors pour vous résumer, quand on aime, on compte pas. Et s'il faut mettre un billet parce qu'on aime, on y va. Et quand on n'aime pas, vaut mieux pas toucher.
C'est ça, c'est bien dit.
Super. Allez, c'est maintenant le temps de l'édito et je vais commencer l'édito et vous allez tous réagir dessus. Là encore, on est sur quelque chose on va être sur un édito de vraiment quelque chose qui nous concerne tous. La hausse des taux va-t-elle faire baisser l'immobilier? L'immense majorité des biens immobiliers sont achetés à crédit et en toute logique, quand les taux baissent, cela pousse l'immobilier et quand les taux montent, cela freine. Pendant la forte baisse des taux, nous avons vu l'immobilier monter, voire monter fortement. Et maintenant que les taux sont remontés, nous le voyons baisser. Mais pas vraiment et pas autant que ça. La différence d'une échéance sur 25 ans entre un taux à 0,9%, qui était le taux il y a 13 mois, et un taux à 3%, ce qui est le taux à peu près aujourd'hui, est de 27%. Cette différence, si c'est un investissement, c'est-à-dire un prêt sur 20 ans, elle tombe à 22%. Mais ça fait une énorme différence. Juste pour le matérialiser un petit peu plus, si avant vous payiez 1000 euros de remboursement de prêt, ben aujourd'hui, ça peut être 1270 euros. Si on se réfère à la règle des banques en France de ne pas prêter plus que 30%, ça va simplifier les calculs, ou que un tiers des revenus, ça veut dire que en fin de compte, on va prêter la même chose à quelqu'un qui gagne quelque chose comme. Donc avant, il suffisait de gagner trois fois les 1000 euros, donc 3000 euros. Maintenant, il faut gagner trois fois les 1270 euros. Donc, 3 800 euros. Et on voit que ça fait quand même une sacrée différence. Et si les salaires ont monté, donc comme les salaires ou les revenus des acheteurs n'ont pas augmenté, en tout cas pas dans ces proportions-là, il va fatalement y avoir une baisse. En premier lieu, ce sera une baisse des transactions, où le pire pourrait être un marché bloqué. Pas d'acheteurs, pas de vendeurs, c'est-à-dire que en vérité, il y a toujours un peu d'acheteurs et toujours un peu de vendeurs, mais on pourrait avoir une chute du marché de 30, 40, 50%. Et en second lieu, une baisse des prix qui finira par redonner une impulsion haussière, comme d'habitude. Et Moi, de mon point de vue, j'appelle cette baisse des prix et j'aimerais bien que les prix ils baissent de 5-6% pour redonner une dynamique. Nos sujets de débat vont donc être la baisse des transactions va-t-elle nous amener vers un marché atone? La hausse des taux sans hausse des revenus va-t-elle obligatoirement entraîner une baisse? Comment et quand allons-nous voir ces différences dans les prix? Quel va être le rôle de l'inflation dans cette mécanique baissière, si tant est qu'elle se mette en place? Juste pour expliquer le rôle de l'inflation, si on considère que l'immobilier doit être déflaté ou reflaté, c'est-à-dire qu'on doit mettre l'inflation, on se dit voilà, ça fait un an, en un an, l'immobilier a baissé de 1%, mais on a eu 6% d'inflation, donc je considère que l'immobilier a baissé de 7% en réalité. C'est une des manières d'aborder le sujet. Cette manière d'aborder le sujet, elle est extrêmement pertinente si les salaires sont corrélés à l'inflation. Donc on y reviendra, mais c'est quelque chose qui avait été expliqué par Wellings, comme quoi au Luxembourg, c'est une loi et les salaires sont automatiquement corrélés à l'inflation. Donc là, automatiquement, si vous avez quelqu'un qui gagne 10% de plus et que le crédit a augmenté de 10%, ben, j'ai envie de dire, il s'en fiche un peu, puisque c'est neutre. Ce qui n'est absolument pas le cas en France et ce qui n'est absolument pas le cas dans l'immense majorité des pays du monde, qu'ils soient développés ou non. Et donc, allons-y là-dessus. On va tout de suite commencer par Maëlle. Donc, Maëlle, vous allez nous confirmer que les salaires au Luxembourg suivent l'inflation et nous dire comment vous voyez les prix au Luxembourg. Est-ce que les prix de l'immobilier au Luxembourg d'abord ont baissé un peu beaucoup ou pas du tout? Et est-ce que la hausse des taux, elle est donc particulièrement pas gênante? Et est-ce que éventuellement le nombre de transactions reste assez stable au Luxembourg? Juste nous donner un petit aperçu comme ça, et après on ira un peu sur d'autres thèmes.
Alors les prix sont bien indexés, enfin les salaires sont indexés sur l'inflation. Donc on a eu trois augmentations de salaire au final avec les différentes indexations. Malheureusement, les crédits ils sont à taux variable au Luxembourg et donc c'est pas 10%, hein, c'est peut-être 10% l'augmentation de salaire, mais les taux ils ont augmenté de bien plus que 10%. Du coup, ça a un impact immédiat sur la construction. La construction elle est complètement à l'arrêt. Les ventes immobilières, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. Donc il n'y a plus aucun mouvement dans le secteur immobilier au Luxembourg. Je crois savoir que le gouvernement en a conscience et qu'il va donc légiférer pour changer un peu la chose et pour relancer un peu l'activité de promotion immobilière dans un premier temps, parce qu'il n'y a pas assez de logements au Luxembourg pour la quantité de personnes qui y vivent. Et donc ça va avoir un impact immédiat sur les ventes et les achats immobiliers. Mais aujourd'hui, il ne se passe absolument plus rien.
Donc là, on est un petit peu dans la première hypothèse, un marché atone où il n'y a pas d'acheteurs et pas de vendeurs.
Exactement. Alors il y a des acheteurs mais qui attendent, parce que de toute façon c'est trop cher. Aujourd'hui ça baisse pas, ça n'a pas baissé du tout. Et donc comme c'est trop cher et que les taux de crédit ont été multipliés par 4, bah forcément, aujourd'hui on est à plus de 4% hein, sur un taux variable au Luxembourg, ce qui est vraiment élevé hein, par rapport à ce qu'on peut connaître en France. Sachant que l'augmentation de salaire, elle n'a pas été fois 4. Hein, donc forcément, il ne se passe plus rien. Donc il y a des acheteurs, mais il n'y a plus aucune transaction parce qu'ils attendent que les prix soient revus un peu à la baisse.
D'accord. Allez, on passe à Cyriaque. Bonsoir Cyriaque,
Bonjour.
merci d'être avec nous. Alors, bon, l'immobilier, ce n'est pas votre spécialité, encore que peut-être dans une vie précédente, vous y avez été proche ou plus proche qu'aujourd'hui. Comment vous voyez ces choses un petit peu, alors, cette espèce de marché atone, ou ce marché qui doit baisser, ou ce marché qui ne baisse pas? Est-ce qu'on utilise l'inflation comme indicateur? Est-ce qu'on n'utilise pas l'inflation? C'est quoi votre point de vue général là-dessus?
Bah, sur l'immobilier, c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène de vase communicant qui est assez clair sur l'évolution du prix d'un bien immobilier et l'évolution des taux, hein. Alors, on peut faire référence à ce qui se passe aux États-Unis où ils sont un peu en avance, on va dire, sur les hausses de taux depuis quelques mois par rapport à ce qu'a fait la BCE. Bon, clairement, les prix commencent à baisser aux États-Unis de manière assez importante et quand on regarde les constructions, elles ont vraiment pris un coup dans l'aile. Et je pense que les États-Unis sont un peu le début du chemin pour ce que nous, on va suivre dans quelques mois. Alors après, la réactivité des marchés immobiliers entre États-Unis et zone euro, c'est pas exactement la même chose. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'on aura une chute de prix aussi vertigineuse que ce qu'on peut en tout cas anticiper aux États-Unis. Mais il est certain que s'il y a quelque chose en économie qui fonctionne plutôt bien, c'est quand les taux montent, les prix de l'immobilier ont tendance à ralentir, voire à baisser. Donc la question, c'est plus l'ampleur de cette baisse qu'on pourrait avoir. Et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, l'immobilier, en tout cas, les prix de l'immobilier tiennent bien. Mais comme vous le disiez, il y a une logique finalement d'attente. Est-ce que les vendeurs sont capables d'ajuster leurs prix aussi rapidement? Certainement pas. Il faut essayer de garder les prix élevés, mais les acheteurs, de toute façon, n'ont plus les moyens d'acheter au même niveau. Donc, enfin, vraiment d'un point de vue, on va dire vraiment économiste et macro, assez éloigné du quotidien du monde de l'immobilier. Ça me semble assez logique que les prix se viennent à baisser, mais certainement pas de la même ampleur que ce qu'on a pu connaître dans les grands mouvements de baisse, alors aux États-Unis en 2008, et puis quand on revient en zone euro, faut revenir quasiment dans les années 90.
Ok, alors là maintenant je vais m'adresser à Marika et je vais rebondir sur deux choses qu'a dit Cyriaque. Donc il a dit les acheteurs ne peuvent plus acheter. Alors ça c'est vrai, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer que par exemple quelqu'un qui il y a un an voulait acheter 100 mètres carrés dans un beau quartier, ben il va acheter 90 mètres carrés dans un quartier un peu moins beau et en fin de compte c'est comme ça qu'il va bouger le budget, donc il va descendre la qualité et descendre ses prétentions en termes de prix et revenir dans des prix acceptables dans des prix acceptables pour lui. Donc c'est l'investisseur qui fait un travail de modération et qui revient dans des prix. Ça évite une baisse. Donc, hypothèse, je vais vous demander de réagir. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle n'est pas sérieuse? Qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième chose sur laquelle Cyriaque a présenté un point de vue, alors là c'est un point de vue dont je me méfie toujours. Et il avance et il dit, alors oui, ça va baisser, mais pas comme en 2008, pas comme dans les années 90 en France, pas ce genre de baisse. Et ça, en fin de compte, il y a un peu plus d'un an, tous les gens qui venaient à la radio, tous les gens qui parlaient, y compris Marc Poitier d'ailleurs, ils disaient tous, oui, l'inflation est de retour, la BCE se trompe, mais nous n'allons pas avoir de l'inflation comme nous en avons eu dans les années 80. Nous n'aurons pas d'inflation à deux chiffres, mais l'inflation, elle est de retour. Et en fin de compte, oui, la BCE s'est trompée. Sur notre antenne, ils ne se sont pas trompés, elles étaient de retour, mais ils ont eu peur en voulant modérer, ou peut-être pas vouloir effrayer, ou peut-être qu'ils n'ont pas voulu croire à ce qu'ils voyaient. Ils ont dit qu'elle serait contenue, qu'elle serait modérée, et on voit qu'elle n'est rien contenue, qu'elle n'est rien modérée, et que si les États n'avaient pas mis des espèces d'armes anti-inflation, ça aurait pu être une catastrophe. Et là, il y a de la pression partout pour essayer de la modérer parce qu'elle s'envole. Donc, elle est plus forte et elle a été très forte à le croire. On a vu exactement la même chose aussi avec les baisses de marché. Oui, la tech va corriger, oui, truc, oui, machin, oui, bidule, oui, chèque. Eh ben, on a pris un vrai beau crack. Et en obligataire, les spécialistes obligataires qui sont venus sur nos antennes nous ont dit que c'était le krach le plus fort du 21e siècle et du 20e siècle compris. Donc beaucoup plus fort que tout ce qu'on avait eu en krach obligataire. Donc, Marika, est-ce que vous pensez qu'il faut un peu pousser Cyriaque et lui dire, allez, vas-y, lâche-toi, et dis vraiment ce que tu penses, et ne modère pas ton langage et ne fais pas du langage officiel, ou alors non, vous pensez qu'il a raison et qu'il n'y a pas de raison de croire que le pire va nous arriver. Allez, Marika, c'est à vous.
Alors, la première question, c'était sur à quel point, en gros, le pouvoir d'achat, parce qu'en fait, c'est ça le but, c'est de comprendre en fait que le pouvoir d'achat immobilier, il a baissé. Et donc, si je reprends un peu les statistiques que vous avez données au début de l'édito, mais d'une façon légèrement tournée, en gros, donc les taux d'intérêt, par exemple, en ce moment, à 20 ans, c'est du 3% en France. L'an dernier, c'était 1% pour les meilleurs dossiers. Et donc, si on a cette même mensualité de 1 000 euros, en fait, avant, on pouvait emprunter 217 000 euros. Alors que maintenant, avec un taux à 3%, on peut emprunter que 180 000 euros. Donc en gros, entre le 217 000 et le 180 000, il y a une perte de 18% de capacité d'emprunt. Donc clairement, en théorie, si on a envie de pouvoir acheter la même chose avec les taux qui ont monté, l'immobilier devrait baisser de 18% pour compenser. Et clairement, on n'y est pas. Et donc, cette hausse rapide des taux d'intérêt, elle impacte qui? En premier, bah, les primo-accédants. Pourquoi? Parce que eux n'ont pas des taux fixes à long terme, encore une fois, qui est une exception un peu française. Et en fait, le marché est vraiment impacté par ceux qui ont besoin de bouger. Et donc, le marché atone, qui est complètement immobile en ce moment, c'est pourquoi? C'est parce que justement, personne n'a envie de bouger. Donc, tant que Les acheteurs sont ici, les vendeurs, enfin les contraires, les vendeurs sont ici, les acheteurs sont là, il n'y a aucune transaction qui se passe puisque personne n'a envie de bouger. Et donc ça va être qui a l'urgence soit d'acheter ou soit de vendre qui va faire bouger les prix. Et encore une fois, plus le marché est atone, plus la baisse des prix en fait n'a pas vraiment de substance. Pourquoi? Parce que s'il y a très peu de transactions qui sont passées, bah, la baisse des prix qui ne considère que ces transactions, bah, du coup, il n'y a pas trop de matière derrière. Donc voilà, c'est vraiment qui a l'urgence. Et une des solutions, ça va être par exemple de downgrade. Donc au lieu d'acheter le 100 mètres carrés, on va acheter le 90 mètres carrés, possiblement. N'empêche que si tout le monde fait la même chose, ceux qui ont les 100 mètres carrés et qui doivent vraiment, pour une raison X ou Y, partir, bah, vont devoir baisser. Donc en fait, c'est toujours pour ça ça prend du temps, l'immobilier, dans le sens où au départ, tout est sclérosé, personne ne veut bouger. Puis à un moment, on va se dire, non, mais il faut vraiment que je vende ou il faut vraiment que j'achète. Donc, du coup, il va y avoir quelques transactions, mais ça ne va pas se voir encore vraiment dans les prix. Pourquoi? Parce qu'on peut acheter un peu plus loin, on peut acheter un peu plus petit, ce genre de choses, jusqu'à vraiment, en fait, c'est vraiment l'urgence qui va à un moment tout déclencher. Et donc après, la chute des prix, est-ce que ce sera comme 2008 ou pas? Encore une fois, je fais toujours la séparation côté anglo-saxon ou Luxembourg où les taux sont variables. Et donc du coup, là, tout le monde est impacté, surtout si c'est des taux variables court terme, comme dans les pays anglo-saxons. En gros, on n'a pas de taux à plus, enfin d'emprunt à plus que 5 ans. Donc la moyenne, c'est 2 ans ou 3 ans, avec vraiment, si on pousse le truc à 5 ans, on peut peut-être trouver. Mais donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours l'effet ciseau. Donc il y a la baisse, enfin, ou la hausse des taux d'intérêt qui va impacter sa mensualité. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont plus pouvoir payer. Donc au départ, encore une fois, peut-être on va serrer la ceinture, on va ajuster deux, trois petits trucs, jusqu'à un moment où c'est plus possible. Mais donc, quel est le moment? Et puis, l'autre chose, c'est une fois que le taux variable ou le taux fixe, mais à court terme, donc au bout de 3 ans ou 5 ans, mature, du coup, il va falloir renégocier un nouvel emprunt. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une réévaluation de la maison ou de l'appartement. Et donc, si l'appartement a perdu en valeur, il va falloir remettre plus au pot. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était un nouvel emprunt. Et donc, dans les nouveaux emprunts, eh ben, il faut, je ne sais pas moi, 15%, 10%, 20% de déposit. Et donc, si on n'a pas, si la valeur de la maison a baissé, bah, du coup, il va falloir remettre en plus. Donc, en fait, dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas juste le stock, enfin, ce n'est pas juste, pardon, les nouvelles transactions qui vont être impactées par la baisse des prix, c'est vraiment tout le stock, même ceux qui ont déjà acheté il y a quelques années.
Ok. Et là, est-ce que vous partagez l'avis de Thiriac et on va avoir une baisse plutôt modérée et en tout cas pas une baisse comme en 2008 ou pas une baisse comme dans les années 90? Ou est-ce que vous partagez pas cet avis et vous allez être prudente en disant je ne sais pas? Ou est-ce que vous partagez pas cet avis et vous allez dire non, non, si la baisse commence, elle va s'emballer et les baisses comme les hausses ne sont jamais raisonnables?
Encore une fois, personne ne sait, donc c'est voilà, c'est le futur, on ne sait pas. En France, je suis convaincue que ce sera modéré. Pourquoi? Parce que c'est le luxe des taux fixes à long terme. Et du coup, pour moi, l'immobilier, ça impacte vraiment bah, les primo-accédants, ceux qui n'ont pas encore d'immobilier. Par contre, dans les pays anglo-saxons, clairement, la baisse fait boule de neige et ouais, d'ici 1 an ou 2 ans, quand les taux de 3 ans ou 5 ans vont maturer, clairement, ça va faire mal. Donc pour moi, la baisse des pays anglo-saxons, je dis pas qu'elle sera de 30% comme en 2008, mais de voir 15 ou 20% de baisse, ça m'étonnerait pas.
Ok. Alors, moi là-dessus, je suis d'accord avec vous, Marika. Je pense que les baisses comme les hausses ne sont jamais raisonnables. Et pourquoi elles ne sont jamais raisonnables? Parce que l'être humain n'est pas raisonnable et le monde financier, de la manière dont il est organisé aujourd'hui, a besoin de tension et de pression pour exister, pour se développer et pour faire des affaires. C'est-à-dire que tout ce monde financier existe beaucoup plus dans des fortes hausses où il y a besoin d'accompagnement d'acteurs pour financer les acquisitions et les mouvements, et il existe beaucoup plus dans des fortes baisses où il y a besoin d'acteurs professionnels pour gérer les problèmes qu'elles induisent, des restructurations et des choses comme ça. Et là, les professionnels de la finance ont beaucoup de choses à apporter, et donc, alors que dans des marchés atones, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, quand c'est comme ça et c'est pas autrement, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Donc moi, j'aimerais bien qu'on revienne maintenant sur un sujet et à vous, pardon, excusez-moi, et à vous, Cyriaque, pensez-vous réellement que la baisse va être raisonnable et pourquoi vous pensiez qu'elle serait raisonnable et pourquoi est-ce qu'elle devrait être différente? Alors, moi, j'ai une piste, je vais vous la donner parce que quelque part, je me dis que oui, on peut avoir raison parce que les choses sont différentes. Pourquoi les choses sont différentes? Parce que les États réagissent beaucoup plus et beaucoup plus vite. Donc, ils ne laissent pas faire des choses qu'ils considèrent comme être mauvaises pour l'économie ou pour l'équilibre du pays, et en tout cas, beaucoup moins qu'avant. Cette histoire de bouclier d'inflation, pour moi, c'est un vrai exemple. Je me rappelle quand j'étais petit. Quand il y a eu le premier choc pétrolier en 1974, il n'y avait rien de bouclier du tout. Ils passaient tous à la télé les uns après les autres en disant: vous serrez les dents, vous serrez les fesses, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous avez froid, vous mettez un pull. Vous avez froid, vous mettez un deuxième pull. Et ils nous expliquaient qu'au lieu d'aller au travail en roulant à 90 à l'heure, il n'y avait qu'à rouler à 70 à l'heure et qu'on consommerait moins d'essence et que donc en termes d'argent, ce serait la même chose. Donc que ce n'était pas vraiment un problème. Partez de la maison 15 minutes avant. Roulez 20 km à l'heure en dessous et vous consommerez rien de plus. Et on nous expliquait comment lutter contre l'inflation, mais sans aide. Aujourd'hui, plus personne veut entendre ça. Et donc, on va aider tout le monde. Et là, j'ai envie de dire peut-être que parce qu'on va aider tout le monde, on va empêcher les mouvements de se faire. Donc, on risque de les prolonger, mais de limiter les amplitudes. Donc ça, j'ai peut-être envie de dire, c'est un bon axe. Mais autrement, l'axe normal serait non forte, enfin pas forte, mais une vraie baisse, quoi. Alors, est-ce que vous voulez bien revenir là-dessus et nous dire comment vous voyez ça, vous?
Alors, sur le premier argument que vous donnez, en effet, il est pertinent. Il y a une réactivité des États qui est très différente, enfin, qui est différente en tout cas de par le passé. Je pense également qu'il y a une grosse différence sur laquelle je reviendrai un peu plus loin dans l'émission, c'est que la macroéconomie, elle n'est pas du tout en train de craquer. C'est-à-dire que l'immobilier, lorsque ça va mal, pour aller beaucoup plus bas, et quand je parle moi d'une baisse raisonnable, alors après les chiffres c'est toujours compliqué, je sais pas, entre 5, 10, peut-être 15 et encore, c'est une chose. Une vraie baisse qui serait peut-être 30, 40, 50%, pour aller sur ces niveaux-là, il faut que, de mon point de vue en tout cas, l'ensemble de l'économie se mette dans une spirale négative et qu'à ce moment-là, l'immobilier, ça peut être le début du mouvement, et on le dit souvent, hein, quoi. Quand l'immobilier va, l'économie va bien, bah, globalement, si les choses ne vont pas si mal au niveau de l'économie globale, je pense aux États-Unis, bon, bah, finalement, aux États-Unis ou la zone euro d'ailleurs, bah, globalement, je vois pas de moteur pour amplifier le mouvement. C'est-à-dire que c'est ça un peu la limite du raisonnement. C'est-à-dire alors en particulier 2008 étant le symbole, puisque 2008, l'immobilier commence à partir dans le décor, et derrière, il y a toute l'économie américaine qui s'effondre. Et à ce moment-là, on rajoute une pièce dans la machine pour faire baisser l'immobilier, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez la capacité d'achat, parce que vous regardez les réserves, finalement les réserves qui sont mises de côté par le consommateur américain, on n'est pas du tout dans un excès extrême comme on a pu connaître en 2008. On est plutôt dans une logique finalement où on arriverait dans cette crise si elle avait lieu. Et encore là, on va y revenir, mais on est en train de s'éloigner de scénarios de crise. Et finalement, bah, l'immobilier, s'il baisse tout seul, il va pas baisser aussi violemment que si l'ensemble de l'économie s'écrase. Et là, c'est pas le scénario qui semble s'orienter aujourd'hui. Donc c'est ça la différence de mon point de vue fondamental par rapport à 2008 aux États-Unis. Dans les années 90, c'est un autre sujet et c'est plus spécifique à la zone euro sur lequel on peut revenir. Mais je pense que c'est ça mon principal argument pour justifier qu'on n'aura pas une baisse très forte de l'immobilier, en tout cas à l'instant T. C'est de dire que globalement, l'ensemble de l'économie n'est pas orienté sur une forte correction et que par conséquent, l'immobilier n'a pas vocation à baisser de 50% lorsque l'économie, le reste de l'économie tient.
OK. Alors, j'ai encore deux questions avant de passer au point marché. La première, elle est pour Marika. Donc, Marika, ancienne gérante obligataire, donc vous avez l'habitude de maîtriser les taux et l'inflation. Est-ce que, quand on parle de baisse immobilière, donc là, on va dire, allez, l'immobilier a baissé de 2%, mais comme on a eu 6% d'inflation, on doit considérer que c'est du moins 8, ou alors non, 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 pas du tout, ça rime à rien, on fait comme pour les actions. Quand le marché baisse de 2, il baisse de 2. Quand le marché monte de 5, il monte de 5. Et donc, aujourd'hui, on a le propre d'un marché non coté, il baisse, mais il baisse pas beaucoup parce que comme c'est un marché qui est non coté, il suffit de freiner les transactions. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, de votre point de vue, est-ce qu'on intègre l'inflation dans la réalité de la baisse ou la réalité de la hausse de l'immobilier, ou est-ce que ça, c'est du baratin d'agents immobiliers, en vérité, on n'intègre rien du tout et on regarde les choses droit et froidement comme on regarde les autres marchés financiers.
Moi, je suis clairement dans la deuxième option. Et on ne peut pas inclure l'inflation dans le calcul de l'immobilier si on ne le fait pas pour autre chose. Donc, en fait, il faut pouvoir comparer des choses comparables. Et donc, vu que les actions, bah, c'est plus 5%, mais si ça se trouve, l'inflation a fait 10. Enfin, donc, en fait, voilà, comparons deux choses similaires. Et donc, non, l'inflation dans l'immobilier, en théorie, c'est le calcul qu'on devrait tous faire. Puisque c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Si j'investis 5% ou X% dans l'immobilier, bah, je ne pourrais pas investir ailleurs et le rendement, etc. Mais on ne le fait pas, puisque c'est plus complexe comme calcul. Donc, autant voilà, être consistant dans sa manière de regarder toutes les classes d'actifs et donc faire comme les actions, juste un rendement absolu.
D'accord. Alors, maintenant, c'est pardon. Ma dernière question, elle sera pour Cyriaque. Cyriaque, vous répondez à la question et après, vous enchaînez directement sur le point marché. J'ai un autre sujet d'inquiétude sur l'immobilier. Beaucoup de projets immobiliers sont portés par de la dette mezzanine. C'est-à-dire que globalement, quand vous avez un promoteur ou un marchand qui fait un projet et qui construit un projet, il dit voilà, mon projet il va coûter 20 millions, j'ai besoin d'emprunter ces 20 millions, je vais voir une banque, la banque elle lui dit on va vous en prêter 15, à vous de trouver le reste. Lui, il prend 1 million des fonds propres de sa société ou de sa personne, ça fait 16, et il va voir ensuite des emprunteurs pour faire ce qu'on appelle la dette mezzanine, donc une dette avec moins de garantie, de 4 millions, mais la contrepartie, c'est un taux beaucoup plus élevé. Et si le marché est atone, donc s'il n'arrive pas à vendre parce que le marché est atone, sa dette mezzanine, les intérêts galopent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dette mezzanine, elle est entre 8 et 12 ou 13, alors que la dette bancaire, elle est entre 2,5 et 4,5, suivant les opérations. Cette insoutenabilité de la dette provoquerait deux choses. Soit une incapacité à rembourser, donc là on aurait certains problèmes, et ou alors une obligation à vendre vite, quitte à se soustraire un peu de perte pour pouvoir tout rembourser. Est-ce que cet élément vous semble suffisamment fort aujourd'hui et suffisamment développé dans le pays ou même à travers la zone euro pour provoquer une baisse plus forte et pour être un accélérateur de baisse? Et je veux juste rappeler aux plus jeunes d'entre vous et des auditeurs que dans les années 90, il n'y avait pas ça. Et donc, en fin de compte, la chute de l'immobilier a créé une crise bancaire forte parce que c'est les banques qui détenaient la quasi-totalité, des prêts. Et dans les années 2008, alors là, c'est, enfin, aux États-Unis, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est à peu près tout le monde qui détenait les prêts. Les banques ont pris tellement peur de ça que ça a provoqué des faillites de banques, non pas des faillites à cause des bilans qui étaient mauvais, mais des faillites surtout à cause où on ne savait pas ce qu'il y avait, et en fin de compte, on a tous sclérosé le système. Donc là, les banques, avec la dette mezzanine, elles sont sauvées. Donc maintenant, est-ce que cette dette mezzanine va avoir un effet aggravant? Plutôt non, elle sera maîtrisée aussi, vous en savez trop trop rien. Voilà, je vous laisse conclure là-dessus, c'est pas une question facile, hein. Je vous la pose parce que j'ai pas la réponse, et après, vous démarrez sur votre point marché. C'est à vous, c'est rien.
Alors, en effet, c'est pas une question facile. Alors, ce que je peux donner comme élément là-dessus, c'est que le retour qu'on a un peu de terrain de promoteur, c'est qu'en effet, la situation n'est pas évidente, mais pour certains, enfin, on a l'impression, en tout cas, pour une, j'ai envie de dire quasiment une majorité, il y avait quand même le sentiment que les choses étaient en train de s'orienter, excusez-moi, un peu moins bien, et donc, il n'y a pas eu d'excès non plus dans le système à vouloir se leverager ou à construire, à se lancer dans des énormes programmes. Alors, il y en a, hein, clairement, mais le retour terrain, de notre point de vue, est à ce niveau-là un peu rassurant. Mais dans les faits, je suis d'accord avec vous, hein, ce point-là, ça va être un point qui va entraîner, hein, j'ai envie de dire, une pression baissière supplémentaire, de là à entraîner, pour le coup, un retournement beaucoup plus violent. De notre point de vue, ce n'est pas un phénomène qui peut entraîner ce mouvement, d'un mouvement, j'ai envie de dire, d'enfoncer encore plus les prix, ça va juste rajouter une couche supplémentaire, mais comme je disais, ça ne modifie pas notre scénario du moins 5, moins 15. Mais c'est en effet, je pense, vous soulevez un point très important. Faut suivre ce que nous disent les promoteurs, faut suivre ce que nous disent le retour de terrain. On a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a de l'inquiétude, mais pas non plus un excès d'inquiétude, mais faut aussi, je vous rejoins un peu, se méfier de ce qu'on peut avoir du retour de terrain, puisque la réalité de ce qu'on a n'est pas forcément la réalité des comptes. Mais quand on regarde les taux de défaut, par exemple, voilà, sur ce type de promoteur, et là, pour le coup, c'est la réalité, bah, globalement, ça augmente, mais ça n'explose pas non plus. Donc, ils sont certainement en train de vendre un peu moins cher que ce qu'ils anticipaient, d'essayer de se déleverager un peu plus rapidement, mais pour l'instant, il n'y a pas de panique à bord. En l'état. Pour rebondir, pour continuer plutôt sur les discussions plus macro, s'éloigner du côté juste immobilier, il y a quelques infos intéressantes depuis 2 semaines. Hein. Globalement, on a eu du côté de la macroéconomie des news, des informations qui sont plutôt optimistes pour la suite et qui permettent de confirmer ce que je vous disais sur l'immobilier. Alors, je vais me référer à la saison de publication de ce qu'on appelle les PMI, donc ce sont les indicateurs avancés d'achat qui sont publiés et qui permettent finalement d'avoir un bon indicateur de l'évolution de l'économie. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la semaine, j'ai envie de dire, on a eu des bonnes nouvelles et peut-être trop de bonnes nouvelles qui vont nous permettre de reboucler sur la question de l'inflation. Quand vous regardez finalement le PMI composite, donc qui inclut à la fois les services et le manufacturier en zone euro, le précédent était à 50,3, on est à 52. Pour rappel, au-dessus de 50, on est en expansion. Lorsqu'on regarde dans le discours un peu plus qualitatif de ce que nous disent les chefs d'entreprise, alors il y a des craintes sur l'inflation toujours, il y a des craintes sur les niveaux de taux, mais il y a une autre réalité, c'est que les nouvelles commandes tiennent, que finalement l'emploi tient et que donc concrètement, le scénario de récession de la zone euro que beaucoup craignaient et nous aussi, enfin, on va dire durant l'été de 2022, parce que le prix du gaz était extrêmement élevé, parce qu'on voyait une sorte de cataclysme arriver, n'a pas eu lieu. Ça, c'est une certitude sur la fin d'année 2022. Et sur 2023, bah, l'économie de la zone euro semble se reprendre. Alors, est-ce que c'est le rebond du chat mort, comme on dit, et après, on va rebaisser? Ça, on n'a pas encore les informations, puisque c'est le début du rebond d'une phase d'expansion. Mais le fait est que là, on a plutôt des bonnes nouvelles au niveau macroéconomique en zone euro. Par contre, et c'est un peu le revers de la médaille, et c'est le sujet des marchés aujourd'hui, c'est-à-dire que l'économie, on craignait de l'inflation et pas de croissance. Là, on a plutôt de la croissance, mais l'inflation reste forte en zone euro. Alors, je vais rappeler, hein, le chiffre qui a été publié cette semaine. Globalement, un CPI, donc une inflation headline globale qui baisse, mais qui baisse très faiblement, puisqu'on était à 8,6, on est à 8,5, donc c'est quasiment rien. En absolu, c'est très éloigné des 2%. Et l'inflation core, donc qui exclut l'alimentaire et l'énergie, continue à progresser. On est à 5,6, alors qu'on était à 5,3 précédemment. Donc la zone euro, c'est aujourd'hui assez compliqué. Ça explique que la BCE marche un peu sur des œufs en nous annonçant des hausses de taux, mais en ne voulant pas non plus casser cette petite reprise économique qui semble apparaître depuis quelques semaines au sein de la zone euro de manière assez intéressante et surtout non prévue, ce qui explique, ça me permet d'enchaîner sur les marchés, hein, les marchés de la zone euro. Hein, vous avez vu les actions européennes qui sont au niveau des zones géographiques, le marché qui a le plus progressé depuis le début d'année, puisqu'on est aux alentours de plus 12, plus 13, voire plus 14 en fonction des indices, ce qui est quand même assez rare et à souligner. Du côté de la Chine, bah, des très bonnes nouvelles. Alors là, pour le coup, on l'attendait, on l'espérait. beaucoup de déceptions sur la Chine depuis 3 ans. Et les Chinois, après la réouverture de l'économie, affichent des données d'activité qui sont en train de rebondir et en train de rebondir significativement. Il y a eu une déclaration sur les prévisions, les anticipations de croissance sur 2023 en Chine, c'est 5% selon le gouvernement. Enfin, on se méfie un peu plus du gouvernement parce que historiquement, ce qui nous annonçait était toujours délivré. Au cours des 2 dernières années, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, sur 2023, ils nous annoncent 5%. Et quand on regarde les données pour le coup privé, on regarde par exemple le PMI privé qui s'appelle le PMI Caixin. Lui, il est à 54,2. Donc, on s'éloigne largement des 50. L'économie chinoise est en train de rentrer en expansion assez fortement. Elle va tirer une partie de l'Asie assez clairement. Le consommateur chinois est en train de revenir. On le voit quand on regarde ce que nous disent le secteur du luxe européen. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Le revers de la médaille, c'est pas l'inflation en Chine, parce que l'inflation en Chine, elle est sous contrôle, elle est aux alentours de 2%. C'est plutôt la hausse des matières premières qui va être liée à ce retour de la Chine dans l'économie mondiale. Et à ce moment-là, c'est ça qu'il va falloir surveiller de mon point de vue en Chine. C'est est-ce que le prix du cuivre, est-ce que le prix de l'aluminium, est-ce que le prix des métaux industriels au sens large vont rebondir? Le prix du pétrole également, mais l'impact de la Chine est quand même moins significatif sur l'énergie que sur les matières premières et les métaux industriels. Et ça, c'est le point noir aujourd'hui, c'est en tout cas le point à surveiller, c'est est-ce que le rebond de l'économie chinoise ne va pas être trop fort et nous remettre dans une boucle inflationniste. Enfin, je termine sur les États-Unis. Alors les États-Unis, on est dans une situation qui est un peu moins bonne au niveau économique. Je termine sur mon tour du monde des PMI. Vous êtes à 50,1, donc très légèrement au-dessus de 50. On est là sur la ligne de crête. Aujourd'hui, on a un sujet aussi inflation. Quelques chiffres qui étaient moins bons, hein, qui ont d'ailleurs fait baisser le marché il y a une semaine et demie. Le prochain chiffre attendu, il faut s'en rappeler, c'est le 14 mars. On attend sur l'inflation américaine 6%. Le chiffre précédent était à 6,4. Et c'est ça qui va être très important. Ça va nous donner la dynamique. Parce que si on continue à baisser, certes 6%, c'est très élevé, mais si la dynamique continue à se maintenir à ce niveau-là, bah globalement, la Fed, la Banque centrale américaine, n'aura pas besoin d'être plus agressif que ce que pensent les investisseurs. Et à ce moment-là, bah, on est plutôt dans une situation assez favorable aux actifs risqués, que ce soit le crédit ou les actions, parce que l'activité tient et l'inflation continue à baisser. Si par contre, on a une inflation qui montre des signes de stabilisation sur des niveaux beaucoup trop élevés pour la Fed, à ce moment-là, on pourrait avoir des discours beaucoup plus agressifs et une problématique qui sera quand même assez forte sur des hausses de taux et donc d'une nouvelle correction, ou en tout cas pas de rebond des actions. Donc aujourd'hui aux États-Unis, on est dans cette situation un peu particulière, et alors que les États-Unis sont souvent dans une meilleure situation que le reste du monde, là c'est pas le cas. Aujourd'hui, ils sont dans une situation un peu plus compliquée, même si de mon point de vue, l'inflation américaine, pour des raisons structurelles, va continuer à baisser dans les prochains mois, mais ça demande à être confirmé. C'est ce qu'attend le marché pour avoir une nouvelle jambe de hausse du côté des actions américaines qui sont, pour le rappeler, depuis le début de l'année, qu'à plus 2, plus 3, alors un peu plus là avec le rebond de vendredi, mais à plus 5, on va dire, sur le S&P 500, après avoir corrigé d'une vingtaine de pourcents, alors qu'en Europe, on a quand même bien mieux rebondi. Je terminerai sur les résultats des entreprises. C'est aussi une bonne nouvelle, les résultats des entreprises aux États-Unis. Alors c'est négatif, hein, puisque ça baisse très légèrement, mais ça baisse pas beaucoup. Et ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'activité, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas sur une baisse qui est cohérente avec une récession aux États-Unis. On est plutôt sur une baisse, sur un ralentissement. Et c'est tout ça est assez cohérent aux États-Unis. En zone euro, il faut le noter, c'est pas souvent le cas, donc on peut le dire. La croissance des bénéfices est supérieure en zone euro. La croissance des bénéfices des entreprises est supérieure en zone euro par rapport aux États-Unis, et ce qui va aussi dans le sens de l'amélioration, de la surperformance des actions européennes depuis le début de l'année. Donc en résumé, on est dans un environnement qui reste compliqué, hein, mais qui a déjà été en partie intégré par le rebond qu'on a eu sur les actifs risqués depuis le début de l'année avec cette normalisation en cours de l'inflation. La bonne surprise, c'est l'activité qui repart, mais paradoxalement, il ne faudrait pas qu'elle reparte trop vite pour pas nous remettre dans un tour d'inflation qu'on n'aurait pas prévu, en tout cas que les investisseurs et les marchés n'auraient pas anticipé.
Ok, alors c'était dense, je ne vous ai pas coupé parce qu'en fin de compte, il y avait beaucoup plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Donc j'avais envie de vous laisser continuer, de vous laisser parler. Et alors moi personnellement, bah, j'ai plutôt envie de rajouter des bonnes nouvelles. Et j'ai plutôt envie de rajouter au moins 3 bonnes nouvelles. et sur lesquels on va prendre vos avis rapidement parce qu'on a déjà beaucoup dépassé. Voilà. Alors, la première des choses, c'est que quand on regarde les publications des entreprises, elles continuent à faire des profits. Donc, elles se sont parfaitement adaptées à l'inflation, elles se sont parfaitement adaptées au marché. Donc, des entreprises qui continuent à faire des profits, voire qui font un peu plus de profits que ce qui était prévu, c'est normal que ce soit des entreprises dont la valeur en bourse monte. Donc, c'est vrai que ça nous surprend parce que plus 12%, plus 13% en 2 mois. À la limite, je suis même pas sûr que ça nous surprenne, ça nous fait peur. Parce qu'on se dit, est-ce qu'on va le payer? Est-ce qu'on a le mois de mars ou le mois d'avril? Avec un moins 6 ou moins 7, et donc avoir du stress à gérer avec les clients, parce que quand ça monte, même si c'est stressant, ça monte. Donc les gens râlent pas, alors que quand ça baisse, même si on explique qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que ça va remonter, au fond de nous, on s'inquiète quand même un petit peu parce qu'on n'en est jamais sûr. Mais l'inflation, elle est bien gérée, les résultats sont bons. On arrive à générer quand même du profit dans les entreprises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est en Chine, ils vont pas faire l'erreur européenne parce que ce qui a vraiment généré l'inflation, c'est les plans de relance post-Covid qui se sont additionnés à la relance naturelle après une contraction. C'est-à-dire qu'il y a l'effet ressort, tout le monde était chez soi, on pouvait pas aller au restaurant, on pouvait pas faire ci, on pouvait pas faire ça. On a quand même gagné notre argent et nos salaires. Donc, un ressort se compresse. C'est le ressort des dépenses. Sorti du Covid, tout le monde, je ne veux pas exagérer non plus, la plupart des gens avaient de l'argent de côté et avaient un désir de s'amuser, de s'acheter des fringues, d'aller au resto, de voir les copains, de partir en vacances. On a dépensé cet argent, plus des plans de relance, ça a fait tourner l'économie, surchauffe de l'économie, inflation, c'est tout à fait normal, c'est exactement ce qu'on apprend à l'école. Les Chinois ne vont pas faire cette erreur, ils vont d'abord laisser l'effet ressort se mettre en place naturellement. Et ensuite, ils feront probablement un plan de relance si besoin est. Ce retour positif de la Chine va donner automatiquement du business à l'Europe et aux États-Unis. Je ne sais pas dans quelle proportion, je ne sais pas très bien, mais ça va en donner un petit peu. Et voilà, et les choses pourraient continuer. S'il y a un resserrement monétaire plus fort que prévu, automatiquement, ça va créer une tension et on peut avoir moins 6, moins 7 ou moins 8% en 10 jours. Mais après, il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas parce que ça ne viendra pas toucher au bon business. Et en plus, l'autre sujet qui est un sujet pour moi de fond et loin, la démondialisation, on est arrivé au pic, on va redescendre. La mondialisation, pardon, on est arrivé à son pic, on va redescendre. On ne redescendra pas comme c'était avant il y a 100 ans, il ne faut pas rêver. Mais on va redescendre et ça va créer du business aux États-Unis et en Europe. Donc tout ça, moi j'ai envie de dire qu'on est plutôt serein et en plus les États sont quand même ultra ultra présents et ils vont vraiment encadrer tout ça et ils n'ont pas envie de problème. Allez, Marika, en 2 minutes, ce que vous en pensez de ce qu'a dit Cyriaque, de ma réaction. Ensuite Cyriaque, on vous laisse conclure et ce sera Benjamin autour de Benjamin qui nous a rejoint.
Mais je vais aller assez rapidement parce que je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit, les deux. Profit des entreprises qui sont bons. Au final, on a vu que enfin, la plupart ont réussi à repasser les coûts aux consommateurs. Donc, du coup, soit avec des hausses de prix ou alors des baisses de quantité pour le même prix. Donc, au final, ça revient au même. La Chine, je suis plutôt positive aussi, dans le sens où quand on regarde en général d'un point de vue particulier, entre autres, mais d'un point de vue d'allocation d'actifs par zone, clairement les États-Unis ont très bien performé à la fin de l'année dernière. En ce moment, c'est l'Europe, donc à un moment, ça va être la Chine. Et il y a plein de. La rouverture du pays, etc., depuis quelques mois. Et maintenant, vu que tout le monde, par exemple, a quitté Hong Kong, et il y a vraiment des initiatives pour essayer de récupérer les gens. Donc tout ça montre qu'il y a une vraie volonté de revenir enfin, une normale, quoi. Et donc ça, c'est positif pour le pays. Et puis après, le troisième point, c'était sur la mondialisation ou le fait de recentrer, enfin, de re-régionaliser tout ce qui était production, etc. Bah, ça, clairement, je pense qu'il y en a pour des années, parce que entre l'envie et puis le comment ça va se faire, enfin, c'est clairement pas du jour au lendemain. Mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté, que ce soit au niveau des particuliers ou même au niveau des entreprises et des États, un peu de se recentrer sur des opportunités qui sont plus proches. Et donc, du coup, bah, de faire plus travailler ouais, sa région, sa zone géographique. Et en soi, c'est pas stupide, hein.
Ok, allez, Cyriaque, c'est à vous. On vous laisse conclure ce que vous avez dit, comment on a réagi, comment vous voyez les choses. Une petite conclusion et après on passe à Benjamin.
Alors ma conclusion va être sur l'allocation d'actifs, puisque concrètement, comment ça se décline dans un portefeuille. Je voudrais pas non plus qu'on ait une vision trop optimiste des actions, dans le sens où ça a déjà, comme on le disait, bien progressé, et le rebond a pas commencé début janvier, il a commencé plutôt fin septembre, début octobre. Quand vous regardez les valorisations aujourd'hui des actions, vous êtes assez proche des moyennes historiques. Donc nous, en termes d'allocation sur les actions, on est neutre globalement. Et la seule vision, enfin la seule zone sur laquelle on a une vision positive, une surexposition, c'est la Chine justement, où on considère qu'il y a un phénomène de rattrapage qui pourrait être permettre à cette zone d'être un grand gagnant en 2023. Alors ça peut être long, ça sera sûrement avec des à-coups, mais voilà, c'est ce qu'on préfère. Et là où on est surexposé, en un mot quand même, c'est sur le crédit, et en particulier le crédit high yield. Alors, ce que j'appelle plutôt high beta, avec vous avez le high yield, les subordonnés ou encore le crédit émergent, où on considère qu'avec des rendements qui vont être aux alentours de 8%, aujourd'hui, vu notre scénario macroéconomique, il y a aujourd'hui une vraie opportunité à réinvestir sur ces classes d'actifs-là. Et donc, c'est quelque chose qu'on pousse et qu'on considère comme vraiment intéressante en termes d'allocation d'actifs dans les portefeuilles.
Super, merci beaucoup Cyriaque, à une prochaine fois, et c'est toujours aussi clair, aussi bien organisé. Voilà, je pense que vous pourriez aussi travailler en Allemagne, vous êtes prêts, c'est carré, c'est comme chez nos voisins. Merci beaucoup et à
Merci.
très vite. Alors, c'est maintenant au tour de Benjamin. Alors, Benjamin est un entrepreneur à Lisbonne, entrepreneur au Portugal. Il a créé une pizzeria, un restaurant. Il a monté un restaurant en étant arrivé il n'y a pas très très longtemps. Donc, on va essayer de voir ça sous les deux angles. D'abord, est-ce que c'est facile d'être un entrepreneur au Portugal? Comment ça s'est passé? Comment s'est fait un peu toute cette création d'affaires? Et ensuite, on parlera du restaurant, on se fera plaisir et on vous dira. Ô combien c'est bon, ô combien c'est sympa et pourquoi il faut y aller. Alors, bonsoir Benjamin.
Bonjour Bernard, vous m'entendez?
Très très bien, parfaitement. Donc on
Ok.
commence tout de suite. Vous êtes arrivé à Lisbonne il y a combien de temps?
Ça fait maintenant un an que je suis arrivé ici, exactement un an, à quelques jours près.
Voilà, et donc au bout d'un an, vous avez créé un restaurant, vous avez monté une affaire, c'est ça?
C'est ça, bon, en fait, ça fait 3 mois que j'ai décidé d'ouvrir un restaurant. Donc tout s'est fait en 3 mois, maintenant on est ouvert depuis 2 semaines. Donc c'est allé assez vite au final.
Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire d'entrepreneuriat, de création d'entreprise. Avant, vous n'étiez pas du tout dans la restauration, même si vous avez une mère qui est dans la restauration, qui possède un restaurant à Lisbonne, qui est assez connu dans la communauté française. Mais vous n'aviez jamais été restaurateur, vous n'avez pas fait d'études d'hôtel hôtelière ou de choses comme ça.
Non, voilà, oui, j'ai passé 10 ans à Dubaï, donc en finance, et j'ai décidé de rentrer parce que j'avais fini mon expérience là-bas. Et j'ai eu une opportunité, en fait, d'achat, entre guillemets, pour acheter un restaurant. Ça m'a pris en une nuit. J'ai décidé d'ouvrir ce restaurant avec un associé qui s'appelle Cédric Cambioni. Et c'était parti, hein. Donc, en fait, tout simplement, en fait, c'est l'entrepreneuriat au Portugal est assez facile au final parce qu'il suffit juste de bien s'entourer. Donc s'entourer déjà d'un bon avocat et d'entreprises portugaises aussi qui connaissent les lois. Et bien évidemment, ma famille qui m'a bien aidé vu qu'ils sont implantés ici depuis 7 ans. Donc ça a été assez facile et assez rapide au final avec beaucoup de travail évidemment.
Alors, allez donc, un bon avocat. Si vous voulez donner son nom, vous pouvez. Si vous voulez le taire, vous pouvez aussi. Donc.
Non, mais je peux le dire, elle s'appelle Katia Neves. Et, alors, un bon avocat, c'est, elle est très, 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 très bien, mais c'est surtout aussi quelqu'un qui connaît donc, ma langue, donc le français, donc franco-portugaise, et en plus de ça, donc qui connaît bien la loi au Portugal et surtout qui a ouvert, enfin, qui a aidé à ouvrir pas mal de restaurants, en fait, au final. Donc, elle connaissait un peu déjà le système.
D'accord. Donc là, vous vous êtes monté sous forme d'une société.
On a monté une LDA, donc avec Cédric,
Bien.
à chacun de, à 50%. Et c'était parti. Donc, elle s'est occupée de tous les papiers, toutes les licences, parce qu'il y a pas mal de choses à faire au Portugal, parce qu'au final, même si c'est facile, c'est beaucoup de paperasse. Beaucoup de
D'accord.
paperasse. On passe beaucoup de temps sur les papiers, en effet. Ouais.
OK. Alors, donc ça c'est fait. Ensuite, bon, vous avez fait un petit peu, j'ai envie de dire, le travail classique comme partout, chercher des fournisseurs, trouver des fournisseurs, trouver un comptable, mettre tout ça en place, recruter du personnel, avoir les galères de personnel, enfin voilà. Alors,
Exactement. Bien s'entourer, c'est le secret, ça c'est sûr. Voilà. Trouver des bons professionnels, des gens qui savent travailler, ça c'est le secret, ça c'est sûr. Parce qu'il y en a quelques-uns,
alors,
c'est.
juste une question avant qu'on passe à la deuxième partie. Comment vous avez fait pour recruter ce personnel, puisqu'un restaurant, c'est toujours beaucoup de main-d'œuvre. Vous êtes combien à travailler dans le restaurant?
Les 7 maintenant.
7, donc ça veut dire vous, votre associé et 5 salariés, c'est ça?
Ça, voilà. Et
Voilà.
majoritairement en cuisine, du coup, parce que c'est vraiment la cuisine qui pose problème. La salle, c'est facile à trouver. On peut trouver les extras, même sans beaucoup d'expérience, vu que Cédric et moi sommes là. On peut balancer un petit peu, si vous voulez, Balance
Alors, le recrutement, c'était quelque chose de compliqué, de dur? Pas
Et
autant que ça, finalement.
bizarrement, je pense qu'on a eu de la chance aussi, mais le recrutement s'est fait assez simplement. On a envoyé quelques messages sur OLX, majoritairement. Donc, qui est le bon coin portugais, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et on a reçu en une semaine 350 CV. Alors, évidemment, dans les 350 CV, il y avait du bon et du moins bon, très peu de bons. Donc, la sélection a été assez rapide et on a eu beaucoup de chance. Ensuite, après, j'ai eu aussi la chance que ma copine est d'origine ukrainienne et donc avait aussi posté quelque chose sur les réseaux ukrainiens. Et j'ai pu aussi avoir un bartender qui est donc biélorusse, mais ukrainien aussi. Et donc, voilà, je vais aussi utiliser la communauté ukrainienne pour recruter. Donc, j'ai eu un peu de chance. Voilà, tout simplement, c'est que de la chance parce que j'ai recruté 5 personnes assez rapidement et des bons en plus.
Ok, alors, allez, on arrête. Ça, c'était le côté entrepreneuriat. On refera peut-être un jour une émission pour ces tout jeunes entrepreneurs, ces nouveaux entrepreneurs au Portugal. On vous réinvitera. Allez, faites-nous plaisir, faisons-nous plaisir le restaurant. Allez, comment il s'appelle?
Alors, ça s'appelle la Serra.
La Serra. Qu'est-ce que vous faites comme cuisine?
De la cuisine italienne avec une petite French touch. Très important, ça.
Alors,
Très.
c'est quoi la cuisine italienne avec une French touch? Ça veut dire que vous prenez les pâtes Lustucru et pas les panzani?
Exactement, non, pas du tout. Non, non. Non, non, on travaille la pizza au feu de bois, déjà dans un premier temps. Il faut savoir.
Un vrai four au feu de bois à
Voilà, c'est
l'ancienne.
ça. En fait, si vous voulez, quand on est arrivé dans le restaurant qu'on a racheté, il y avait déjà un four à bois tout en pierre réfractaire monté, alors, bizarrement, par un Brésilien. Il faut savoir qu'au Brésil, ils aiment beaucoup la pizza. Donc, c'est l'ancien propriétaire qui avait ramené du Brésil ce Brésilien qui n'avait jamais pris l'avion pour construire ce four qui était le premier à Lisbonne, le premier four à bois. Il a presque plus de 15 ans, le four, hein, je crois, un truc comme ça.
D'accord.
Donc, c'est un vrai four à bois en pierre réfractaire qui doit faire 2,50 m de diamètre. Donc, voilà, c'est très dur à manier. Mais par contre, le résultat à la fin, il est juste incroyable parce qu'on utilise des bois un peu différents, de la pomme de pin pour fumer la pizza, etc. Pourquoi la French Touch? Parce qu'en fait, si vous voulez, on utilise aussi pas mal de produits français. Bon, je vais en citer un. J'utilise pas mal Bobos, que je pense que la communauté française connaît. Par exemple, pour le jambon. Donc, un jambon aux herbes, voilà, beaucoup plus qualitatif que certains jambons aux herbes italiens. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, la French Touch, elle est là. On mélange les plats italiens de base et on rajoute quelques produits français et on mixe tout ça on essaye d'équilibrer tout ça, en fait.
Alors, on a la Serra, cuisine franco-italienne, mais le côté français, c'est plutôt une French touch et une augmentation du niveau de qualité. Je ne suis pas sûr que vous allez vous faire beaucoup de copains en Italie avec ça. Un four à bois qui sort des pizzas. Alors, les pizzas, je les ai goûtées, elles sont délicieuses, vos pizzas. Elles ont ce goût inimitable des pizzas au feu de bois. Bon, après, sur une pizza, on peut mettre tellement de choses que chacun y trouvera son bonheur. Et ensuite, en termes de plats, alors on est sur quoi comme plat si on n'aime pas, enfin si on n'aime pas, si on n'aime pas la pizza, si on ne veut pas de pizza ou si on a envie de manger autre chose que pizza?
Alors, c'est vrai qu'au début, on travaillait surtout la pizza parce que c'était évidemment compliqué, il fallait s'entraîner, hein, parce qu'on parle quand même encore une fois d'un four à bois. Maintenant, aujourd'hui, il y a encore quelques jours, on a intégré les pâtes, donc des lasagnes au four, donc au four à bois aussi, des pâtes cacio e pepe, voilà, très italien. Et on a intégré aussi des pâtes au chorizo pour faire plaisir aux Portugais, parce qu'on sait qu'ils aiment aussi le chorizo. Je vais bientôt travailler, par exemple, aussi une pizza au bacalao. Ils
D'accord.
utilisent la napolitaine d'ailleurs, entre parenthèses, même si bacalao c'est portugais, mais ils utilisent beaucoup le bacalao à Naples aussi. Et je vais travailler bientôt l'ossobuco aussi pour
De
faire
veau
plaisir
ou de dinde?
aux viandards.
Il y
Comment?
en a. De veau. L'ossobuco de veau.
De veau, oui, bien sûr, bah oui, à l'italienne. Et aussi, on travaille aussi des starters. Alors, j'ai appelé ça des starters, mais si vous voulez, c'est des salades composées. Et des planches de charcuterie. Donc, si vous voulez, c'est des gros starters. Donc, c'est plus à partager. Je travaille des classiques tout en mettant un petit peu de personnalité dedans, surtout grâce aux produits, en fait. Une simple vinaigrette classique que vous connaissez, bah, je l'ai un peu élevée avec, par exemple, du vinaigre de calamansi et de l'huile d'olive de mandarine portugaise d'un petit producteur qui est dans la Lantejo. Donc, voilà, j'utilise un peu des produits à
Ah,
droite, à gauche.
j'ai juste une petite question. Comment est-ce qu'on peut faire de l'huile d'olive de mandarine?
Ça, c'est la bonne question. Il faudrait que je lui demande.
D'accord. Donc c'est quoi? C'est une huile d'olive
Aromatisée, je
et
pense.
aromatisée à la mandarine, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Voilà. Bon, ben, c'est plus la peine de lui demander. OK. Alors, avant que ce soit au tour de Julien Milinkevitch avec son passage sur le rachat en assurance vie et le coût du rachat en assurance vie. Je vais juste vous laisser maintenant conclure et nous dire où vous êtes et comment on fait pour venir et quels sont vos horaires, si vous avez un jour de relâche et tout. Donc, alors, vous êtes où?
Alors déjà, on est placé à Alcantara. Donc pour ceux qui connaissent, je suis juste en face de la Couffe et juste derrière LX Factory. Donc on est voilà, placé entre deux landmarks assez connus. On travaille surtout aussi, ne venez pas juste pour la nourriture, même si elle est parfaite, mais on travaille aussi l'ambiance, donc l'expérience, vu qu'on a fait une décoration un peu sympa, un peu différente, avec aussi un côté lounge, un côté bar en fait, où vous pouvez juste venir prendre des cocktails, parce qu'évidemment, on fait des cocktails et tout ce qu'on met dans les cocktails est maison, évidemment, à part l'alcool, mais aussi tout ce qui est sirop de lavande, par exemple, on fait maison. Donc voilà, il n'y a pas que le côté restaurant, il y a le côté expérience aussi. On essaye de faire quelque chose de, comment dire, ambiance, mais intimiste. Voilà.
D'accord.
Et ça,
Et
c'est plus important.
ouvert tous les jours?
Ouvert tous les jours, à part le dimanche soir et le lundi. Il faut bien que l'équipe se repose. Et on travaille aussi pas mal donc d'événements. Le mercredi, nous allons faire ça commence cette semaine, la Ladies Night, donc soirée filles, pour toutes les femmes qui veulent être tranquilles et boire des cocktails gratuits, parce qu'on propose deux cocktails gratuits pour toutes les femmes qui viennent passer un moment chez nous, et après elles peuvent manger. Et le vendredi aussi, nous allons faire des events un peu spécifiques, pour attirer différents types de clientèle, comme par exemple la semaine dernière, on a fait un event tatouage. Donc, on a invité trois tatoueurs portugais plus ou moins connus qui se sont placés dans le restaurant, qui ont tatoué des gens et d'autres personnes qui mangeaient ou d'autres personnes qui buvaient des cocktails. Donc, si vous voulez, on travaille, on veut attirer plein de types de clients différents. Et voilà, on travaille sur ces événements. N'oubliez pas aussi qu'on fait un business lunch à 13 euros pour toutes les entreprises ou toutes les personnes qui voudraient venir déjeuner le midi avec nous.
Super. Allez, merci
Et
beaucoup. Bonne chance.
merci,
À très
merci Bernard.
bientôt. Toute l'équipe de Parlons Patrimoine
Là,
viendra.
je vous attends, hein, je vous attends tous. Hein.
Voilà, avec joie. Merci.
Allez,
Et c'est maintenant
merci.
au tour de Julien. Bonsoir, Julien.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous.
Merci, Julien, d'être présent. Alors, là, vous êtes revenu avec un sujet passionnant, un sujet, j'ai envie de dire, un sujet qui fait l'unanimité ou qui fait le contraire. Il fait l'unanimité de la question, mais il ne fait pas l'unanimité de la réponse. On entend des choses, on en entend d'autres, et on a des avocats qui disent un truc, des avocats qui disent autre chose. Donc, nous, ce qu'on a essayé, c'est de nous organiser avec une question très simple, en fin de compte. On verra que la réponse n'est peut-être pas aussi simple. Je suis résident au Portugal. J'ai un contrat d'assurance vie à Luxembourg. Comme je suis quelqu'un de sérieux, j'ai ce contrat d'assurance vie chez Wellins
Bien
et
sûr.
je décide de faire un rachat parce que j'ai besoin d'argent. Et ce que je veux savoir, ma question, qui est la question que l'on nous pose, mais vous ne pouvez même pas imaginer combien de fois on me l'a posée, que dois-je payer? À qui dois-je payer? Comment dois-je payer? Voilà. Pour démarrer, on a un peu travaillé ensemble. On va avoir deux catégories de gens. Les gens qui sont résidents au Portugal et qui bénéficient du statut de RNH, et les gens qui sont résidents au Portugal et qui bénéficient pas du statut de RNH. Si vous êtes d'accord, Julien, on commence avec le statut de RNH et ensuite on va faire nos hypothèses. Quand le contrat est ouvert, combien on rachète, combien on a mis. Enfin, je vous laisse faire.
Alors, merci beaucoup Bernard. Je crois on est tous d'accord que l'attrait du Portugal ne faiblit pas chez les ressortissants français. Lorsque les ressortissants français viennent s'installer au Portugal, déjà en premier lieu pour bénéficier du statut RNH, ils ont dans leur bagage un contrat d'assurance vie qui peut être ouvert auprès d'une compagnie luxembourgeoise comme Ulins ou auprès d'une compagnie française. Donc déjà pour repréciser un rappel. Sous condition de ne pas avoir été résident fiscal au Portugal depuis moins de plus de 5 ans et de remplir les conditions pour être résident fiscal au Portugal et de demander ce statut RNH, vous pouvez bénéficier de ce statut fiscal dérogatoire qui existe depuis une quinzaine d'années et qui est sur différents axes. En tout cas, sur l'axe qui va nous intéresser, c'est l'exonération de l'ensemble des revenus qui proviennent de l'étranger. C'est-à-dire qu'au-delà du contrat d'assurance vie, lorsque vous avez des dividendes, lorsque vous avez des intérêts, lorsque vous avez des plus-values immobilières, si vous êtes sous statut RNH au Portugal et sous condition que ces différents produits, que ces différents revenus sont imposables dans l'État source, sous statut RNH au Portugal, vous allez être complètement exonéré et ce pour une durée de 10 ans. Maintenant, parlons, comme vous l'avez dit, du contrat d'assurance vie. J'arrive au Portugal, je suis sous statut RNH, je l'ai demandé, j'en profite. Déjà, si j'ai un contrat d'assurance vie, qui est un contrat d'assurance vie auprès d'une compagnie ouverte en France, avant mon départ au Portugal, nonobstant le fait que je sois sous statut RNH au Portugal, dans toutes les hypothèses, j'aurai quand même une retenue à la source côté France. Ça, il faut également pas l'oublier. C'est-à-dire que peu importe que je bénéficie de ce régime fiscal dérogatoire, et on va en parler propre au contrat d'assurance, lorsque j'ai ouvert mon contrat auprès d'une compagnie française, dans toutes les hypothèses, la France prélèvera une retenue à la source dans l'hypothèse d'un rachat. Donc, premier avantage vis-à-vis du contrat d'assurance vie ouvert chez Moulin, c'est que le contrat étant ouvert auprès d'une compagnie établie à Luxembourg, vous n'aurez pas de retenue à la source côté luxembourgeois. Ça, c'est déjà une épine fiscale en moins. Ensuite, est-ce que vous allez être, comment vous allez être traité, à quelle sauce vous allez être traité fiscal au Portugal dans le cadre de votre achat du contrat d'assurance vie? Pour ma part, si vous êtes sur statut RNH et dans l'hypothèse où vous avez des revenus, des produits qui proviennent de l'étranger, vous pouvez faire valoir une exonération. Ce qui n'est pas le cas si vous êtes sous statut non RNH ou tout simplement résident fiscal portugais, donc aux conditions de droit commun, où là, vous allez être soumis à la fiscalité propre du contrat d'assurance vie au Portugal, qui va être une fiscalité d'ailleurs dégressive. Là, je sors du statut RNH, mais c'est important de noter que la fiscalité relative au rachat du contrat d'assurance vie au Portugal est une fiscalité dégressive et que c'est le seul pays de l'Union européenne qui a encore cette fiscalité-là. Donc, pour ma part, pour revenir à votre interrogation, Bernard, si vous êtes sous statut RNH, les produits provenant de l'étranger, vous pouvez, pour ma part, faire valoir une exonération sur les produits en cas de rachat en tant que résident fiscal portugais.
Alors, donc, exonération si on est RNH, quelle que soit la date d'ouverture, quelle que soit la date de dépôt des fonds et quelle que soit la date de rachat.
Oui, quelle que soit la date d'ouverture et quelle que soit, bien évidemment, c'est-à-dire que si le contrat, là aussi, c'est quelque chose d'important, parce que pour bénéficier, on n'attend pas à être ouvert pour souscrire. En tant que résident fiscal RNH, c'est-à-dire que si vous avez un produit avant d'arriver au Portugal, produit luxembourgeois, etc., et que vous décidez de faire un rachat, si vous êtes dans les conditions RNH, pour ma part, vous pouvez faire prévaloir cette exonération.
Alors, quand vous dites pour ma part, c'est une certitude, la compagnie a déjà accompagné des contestations fiscales, a déjà dû discuter avec l'administration? Est-ce que vous avez déjà des clients qui vous ont dit ils m'ont redressé et vous lui avez expliqué utilisez tel texte, tel texte?
Alors,
Qu'est-ce que vous avez comme épaisseur pour conforter cette certitude et pour qu'on puisse l'annoncer officiellement?
Les éventuels points de débat qu'on a eus, ils ne portaient pas à les éventuels accompagnements qu'on a eu à faire. Ils n'étaient pas sur le statut RNH, ils étaient dans l'hypothèse de clients qui étaient hors du régime RNH ou alors qui n'en profitaient plus, ou qui étaient tout simplement des résidents fiscaux portugais. Là, dans cette hypothèse-là, comme je disais, vous avez une fiscalité dégressive qui s'applique au Portugal, sans rentrer dans les détails.
Alors, attendez, parce que ça, c'est notre deuxième sujet. On reste sur le sujet du RNH. Donc, le sujet du
pour
RNH.
Le régime du statut des RNH, à partir du moment où vous êtes sur des revenus qui proviennent hors de France, vous bénéficiez de cette exonération.
OK, super. Alors, ensuite, notre deuxième sujet, donc. J'ai envie de dire la différence entre le statut RNH et les diamants, c'est que le statut n'est pas éternel.
Exactement. D'ailleurs, on arrive tout doucement à la fin des premiers qui ont demandé le statut RNH, etc. Vous connaissez bien le sujet.
Et on a aussi, excusez-moi, et on a aussi des gens, et on a aussi des gens qui ne le sont pas et qui ne l'ont jamais été. Et on a là le nombre immense, tout simplement les Portugais qui vivent au Portugal, qui eux aussi ont le droit d'avoir un contrat d'assurance vie au Luxembourg, et je sais d'ailleurs que vous êtes actif dans le pays, donc vous avez automatiquement des clients, et donc là, ça se passe différemment. Donc là, j'ai un contrat, j'ai de l'argent, je décide de faire un retrait, qu'est-ce qui va jouer, comment ça va jouer, et comment ça va s'articuler?
Alors exactement, vous pouvez avoir des Français qui sont en dehors du statut de RNH, mais également des ressortissants portugais qui ont souscrit un contrat d'assurance vie, puisque le Portugal, nous on est présent, c'est très bien de le rappeler, sur le marché portugal depuis Luxembourg, et le contrat d'assurance vie est parfaitement reconnu au Portugal, et vous n'avez pas beaucoup de différence d'ailleurs entre le contrat au sens du droit portugais ou au sens du droit français. Ça nécessite très très peu d'adaptabilité, cette fameuse portabilité. Vous êtes résident fiscal, pour en revenir sur le statut fiscal, et vous décidez de faire un rachat, parce que vous êtes hors RNH, vous êtes résident fiscal portugais, vous allez avoir l'application de cette fiscalité portugaise qui est une fiscalité dégressive. C'est-à-dire que, comme je le disais, la fiscalité au Portugal sur le contrat d'assurance vie est une fiscalité dégressive, c'est le seul pays de l'Union européenne encore à l'avoir depuis la réforme fiscale française de 2017. C'est-à-dire que sur un contrat qui a été souscrit depuis plus de 5 ans, le produit va être exonéré pour un cinquième. Pour un contrat qui a été souscrit il y a plus de 8 ans, si vous faites un rachat en tant que résident fiscal portugais de droit commun, hors statut RNH, vous allez pouvoir bénéficier d'une exonération pour 3 cinquièmes. Vous allez être soumis au taux d'imposition de 28%, qui est le taux d'imposition propre aux revenus du patrimoine au Portugal, hein, dividendes, plus-values, etc. Par contre, vous allez avoir une assiette minorée du fait de l'ancienneté du contrat. Les interrogations...
Je voudrais juste qu'on comprenne bien. Donc déjà, pour calculer le montant de la plus-value, imaginons que j'ai ouvert un contrat avec 100 000 euros et au bout de 8 ans, j'ai 200 000 euros. Donc ensuite, je dis à la compagnie d'assurance, j'ai besoin de 100 000 euros. Là, la compagnie d'assurance va appliquer la règle et va dire, vous retirez 50% de capital, 50% de plus-value. Donc, votre retrait de 100 000 euros génère une plus-value de 50 000 euros. Ça, c'est le document qu'on va avoir de la compagnie d'assurance?
C'est juste. Alors, ça, c'est le document. Oui, ça, c'est évident que nous, côté assurance, on va vous émettre un avenant. Bonjour, monsieur, vous décidez de faire un rachat partiel dans votre exemple. On va vous envoyer un document, un avenant, comme quoi il y a une montant et appliquer le régime classique à l'assurance, c'est des règles assurantielles, prudentielles, comptables. Ça n'a rien à voir avec la spécificité de l'un ou l'autre des pays. Et donc là, effectivement, on va vous envoyer un avenant. Monsieur, vous avez fait un rachat de temps, et sur ces temps, vous avez tant de produits et tant de produits, tant de capital. Par contre, tout dépend comment vous allez l'appréhender, et c'est là où vous avez des débats et des controverses au Portugal, où vous allez appliquer le régime fiscal dégressif dont on parlait, en disant, ben voilà, j'ai mon contrat depuis plus de 8 ans.
Donc, je dis, j'ai 50 000, je demande un avenant de 3 cinquièmes. Donc je
exactement, mon contrat a plus de 8 ans, donc je suis exonéré aux 3 cinquièmes, et donc je tombe un taux d'imposition qui est en réalité effectif de 11,2, c'est-à-dire que je n'ai pas les 28% portugais sur la totalité du produit, mais simplement sur 3 cinquièmes du produit que je récupère. Ou alors, effectivement, et vous aviez un certain nombre de contentieux ou de jurisprudence côté portugaise en l'espèce sur ce point, certains estimaient que dans l'hypothèse où vous faites un rachat, vous rachetez à la fois du capital et ensuite des produits, donc vous seriez au niveau comptable sur du FIFO, c'est-à-dire je rachète du capital et ensuite je rachèterai le produit tout à la fin. Donc dans l'hypothèse de votre exemple, 50 000 euros de rachat, bah au début je rachète que du capital parce que j'avais déposé une prime de 100 000, et du fait de ce rachat, je suis totalement exonéré parce que je n'ai racheté que du capital pour débuter.
Alors, ça c'est intéressant. Vous adhérez à ça ou vous n'adhérez pas à ça?
Moi, je suis plus d'une manière conservatrice et après les différents échanges qu'on a eus, je pense que l'avenant, bien évidemment, qu'on va vous émettre va reprendre les produits. Moi, je serais plutôt sur un aspect conservatrice en vous disant d'imposer dans toutes les hypothèses, d'être imposé en fonction de la durée d'ancienneté de votre contrat.
D'accord. Et est-ce que vous avez certains de vos clients qui ont dit non, moi j'ai retiré que du capital, donc je n'ai pas payé d'impôts, qui ont eu maille à partir avec l'administration fiscale portugaise? Et est-ce que vous êtes au courant d'un dossier? Est-ce que vous avez suivi le dossier? Ou est-ce que c'est juste des oui-dire, mais vous n'avez rien de clair et de sûr?
On a eu juste des oui-dire sur ce point. C'est vrai que, comme vous l'avez dit en introduction, c'est des choses qui sont. Le statut RNH, il est relativement clair. Pour moi, ça, c'est évident. C'est vraiment dans le statut hors RNH qu'il y a ces deux balances. Ensuite, effectivement, on n'a jamais eu de réponse précise, en tout cas de clients qui ont. Est-ce que ces clients qui ont contesté ou qui se sont posé la question ont été au bout pour demander l'application de cette tolérance qu'avait l'administration fiscale portugaise en disant en cas de rachat, je rachète que du capital et non pas du capital et du produit. Comme je rachète que du capital, j'applique le FIFO et pour mon premier achat partiel de 50 000 pour cette prime de 100 que vous évoquiez, je suis complètement exonéré.
Voilà. Et alors, dernière question, est-ce qu'au Portugal, il y a cette règle un peu comme il y avait une vieille règle comme ça en France, où on regarde non pas quand a été ouvert le contrat, mais depuis combien de temps sont posés les fonds ou la majorité des fonds sur le contrat?
Oui, pour pouvoir bénéficier de cette fiscalité dégressive au Portugal, on est hors statut RNH toujours, hein, pour bénéficier de cette, ce n'est pas la date d'antériorité, vous avez la date d'antériorité du contrat, un petit peu à l'image de ce qui existait en France précédemment, mais il faut également qu'il y ait 35% des primes qui aient été payées durant la première moitié de vie de la police. C'est-à-dire que si vous avez ouvert un contrat en année N avec un versement minimal et qu'en N plus 7, vous faites un versement majoritaire, vous avez versé 1 en N et 99 en N plus 7, et que vous faites un rachat en N plus 8, vous ne pourrez pas bénéficier de cette fiscalité dégressive. Certes, le contrat aura plus de 8 ans, mais par contre, vous n'aurez pas versé un minimum de 35% des primes durant la première moitié de vie de votre contrat, dans mon exemple, durant les 4 premières années, si vous faites un rachat à 8 ans.
Alors, là-dessus, je vais extrapoler, ce sera ma dernière question. Ce qui veut dire que si on rencontre au Portugal, enfin, je vais parler pour moi, allez, pour moi, donc gestionnaire de patrimoine, si je rencontre au Portugal quelqu'un qui a un contrat au Luxembourg depuis 15 ans, sur lequel il a mis 50 000 balles, et là, il vient me voir et il dit, maintenant, j'ai fait un héritage, ou j'ai vendu mon affaire, ou j'ai vendu une maison, j'ai 2 millions à mettre. Le bon conseil, c'est donc de lui dire d'ouvrir un nouveau contrat. Puisque, en fin de compte, il faudrait autrement qu'il attende 15 ans pour rentrer dans cette logique de première moitié, alors que
Exactement.
s'il ouvre un nouveau contrat, dans 8 ans, ce sera fait.
Alors, le premier bon conseil, mais comme vous êtes un excellent gérant de patrimoine, ce sera d'ouvrir un contrat au Luxembourg, puisque dans l'hypothèse où il fait un rachat, il n'y aura pas de frottement fiscal par rapport à un contrat ouvert auprès d'une compagnie française. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, d'ouvrir une deuxième police. Puisque de toute façon, sa première police avec un montant marginal, dans la mesure où il n'aura pas versé plus de 35% des primes durant la première moitié du contrat, s'il a besoin de faire un rachat partiel quelques années plus tard, il ne pourra pas bénéficier de la fiscalité dégressive. D'où la nécessité d'ouvrir un deuxième contrat pour justement, effectivement, avoir, on va dire, bien plus de 35% des primes, en tout cas la totalité des primes versées immédiatement, ce qui fera plaisir tant au gestionnaire de patrimoine qu'à l'assureur, bien sûr, mais derrière, pour votre client final, dans l'hypothèse d'un rachat, de bénéficier de cette fiscalité dégressive qu'on retrouve, je le rappelle, qu'au Portugal désormais.
Donc là, on a une vraie différence, parce qu'en France, le conseil, ce serait bah, de garder son ancien contrat et on rajoute dessus.
Oui, sur la France, en fait, la distinction, elle va se faire bien évidemment sur la fiscalité d'essai avec la règle d'avant ou après 70 ans. Ensuite, une fois qu'on a pris date fiscalement, même si cette prise de date fiscale existe beaucoup moins en France depuis la réforme de 2017, puisque maintenant tout est à la flat tax de 30%, hein, vous n'avez pas de cette fiscalité dégressive de 35, 15 ou 7,5. Là, au Portugal, vous avez encore cette vraie différence au moment pour la fiscalité en cas de vie. Je ne parle pas de la fiscalité en cas de décès, puisqu'en cas de décès, le Portugal ne prélève pas de droit de succession en ligne directe.
Ok, ben, le décès, ça fera l'objet d'une prochaine émission, donc je ne vais pas vous relancer là-dessus.
Ben
On ne
très bien,
regarde pas
rendez-vous est noté. Rendez-vous est
en
noté.
détail comment se passe la fiscalité du décès assurance vie et en assurance vie. Merci beaucoup, Julien.
À
Je vous
très
souhaite
bientôt,
une très
Bernard. Au
bonne
revoir.
soirée. Je vous dis à très vite et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. À
À la
très
mode de
vite.
même.
Au revoir.